Bonjour et bienvenue à bord de ma mobylette cosmique sur les routes de la musique. La musique est un des derniers rituels de magie dans un monde de plus en plus matériel. La musique nous relie les uns aux autres. Le mot « communion » serait le plus approprié pour définir le sentiment qui prend une foule pendant un concert. Si les gens ne vont plus à la messe, ils sont de plus en plus nombreux dans les festivals. Et au fond, c'est la même chose. Le même besoin de vibrer ensemble les anime. Si les hommes et les femmes autrefois étaient séparés dans les bancs des églises, c'était pour établir une polarité qui générait un véritable courant électromagnétique et transformait la nef d'une chapelle en pile électrique géante. Cette polarité homme-femme, génératrice de vie, nous allons l'entendre, nous allons tâcher d'être à son écoute à travers un récit légendaire, la Bible, soumis à la relecture d'une femme remarquable, Annick de Souzenel, dont je conseille fortement la lecture d'un livre paru à la fin des années 90 dans une indifférence quasi générale et qui, aujourd'hui, plus que jamais, prend un sens profond et salvateur. Le féminin de l'être, pour en finir avec la côte d'Adam. C'est parti.
France Inter, les routes de la musique, André Manoukian.
En 270 avant Jésus-Christ, à Alexandrie, un pharaon grec, Ptolémée, le deuxième du nom, curieux de tous les cultes qui existent en Égypte, particulièrement intrigué par les rites des Juifs d'Alexandrie qui sont nombreux autour de son palais, commande une traduction de l'Ancien Testament, de l'hébreu au grec. La légende veut que 72 sages se mettent à la tâche et aboutissent chacun comme par miracle au même texte. Et c'est pour ça qu'on nomme cette traduction de la Bible la Septante. Le problème, c'est qu'elle est bourrée de fautes, nous dit Annick de Souzenel, chrétienne orthodoxe qui sait lire l'hébreu. Dire une telle chose d'un livre sacré, comment est-ce possible pour une croyante? La leçon, C'est peut-être qu'un livre sacré n'est pas un sanctuaire immuable ni intouchable, mais qu'il demande peut-être le contraire, à savoir un examen du cœur, une lecture intime soumise à l'expérience personnelle de chacun. De la même manière qu'une musique reste vivante tant qu'elle reçoit l'apport d'éléments nouveaux, un texte reste vivant tant qu'il reçoit l'apport de nouvelles réflexions, de nouveaux commentaires qui vont l'éclairer sous différents angles. Cette tradition des commentaires existe dans les trois religions du livre. Seuls les plus sectaires refusent les interprétations et prennent le texte à la lettre. Les érudits des trois traditions, juives, chrétiennes et musulmanes, n'ont cessé d'alimenter de leurs réflexions ces écrits, qui en deviennent du coup des préceptes de sagesse. Alors que s'ils en sont privés du commentaire, il reste des récits dogmatiques réservés à une ethnie pour mieux la conforter dans un cercle excluant le reste du monde. Soumis à une lecture symbolique, le texte biblique devient un écrit de sagesse. Soumis à une lecture littérale, il donne les créationnistes qui croient vraiment que le monde a été fait il y a 6000 ans en 6 jours comme le vice-président actuel des États-Unis d'Amérique. Alors remettons-nous dans le texte original et voyons ce qui apparaît. Le récit de la Genèse est un mythe.
Jean-Claude Carrière veut nous parler du mythe.
Quand on parle d'un récit mythique, on fait presque un pléonasme, parce que le mot mythe lui-même veut dire récit, c'est quelque chose qui se raconte. Le mot mythe entraîne presque automatiquement l'idée de l'origine. Le mythe, c'est souvent le récit de l'origine d'un peuple. Comment il est apparu, comment il est né, d'où il est venu.
Le mythe raconte le peuple, et le mythe peut être ressenti de différentes manières.
Vous êtes fan des Feux de l'Amour ?
Oui, c'est la série mythique.
L'Ajax, pour moi, c'est un club mythique.
Moi, je suis venue voir The Cure, en fait, parce que The Cure, c'est mythique, tu vois.
C'est tellement mythique.
Ça va être trop bien. Paradise, tu vois.
Les Feux de l'Amour, un club de foot et The Cure. Qu'est-ce que ça dit de notre civilisation, ça ? Jean-Claude Carrière recentre le propos.
Un récit disant à un groupe d'hommes sur la Terre, vous êtes d'ici, vous êtes venu là, vous êtes descendu le long d'un haricot géant ou bien un oiseau fantastique a apporté ici votre première semence de laquelle vous êtes né, mais c'est votre Terre, vous êtes de là. Et étant de là, voici comment vous devez vous comporter.
Ne jamais couper la parole à quelqu'un d'autre.
Et la civilisation se construit autour du mythe.
Le mythe entraîne toujours, soit directement, soit indirectement, une morale, une façon de vivre ensemble, des mœurs. Donne des règles de vie qui, plus tard, quand l'écriture arrivera, vont s'inscrire dans l'histoire du peuple sous la forme de lois. Les lois de Lycurgue, les lois de Manu, en Inde, et bien entendu, pour le peuple juif, les 10 commandements.
Un mythe n'est pas une fable, c'est la projection de l'intériorité de l'homme sous la forme d'un récit légendaire. Le mythe est l'externalisation des archétypes qui sont en nous. Le mythe est la mise en rapport des ressorts inconscients qui nous animent. C'est en étudiant les mythes que Freud et Jung ont tenté de définir les contours d'une science, la psychanalyse, qui veut dire strictement l'étude de l'âme.
Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greatness. Cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness. That I would even show up to this fake shit. So go ahead, go nuts, go ape shit. Especially in my pastel on my paper shit. Act like you can't tell who made this. New gospel, homie, take six. And take this, haters.
That don't kill me. Can only make me stronger. I need you to hurry up now. Cause I can't wait much.
much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya.
I don't know if you got a man or not, if you made plans or not, if God put me in your plans or not. I'm tripping, this drink got me saying a lot, but I know that God put you in front of me. So how the hell could you front on me? It's a thousand yous, it's only one of me. I'm tripping, I'm caught up in the moment, right? Cause it's Louis Vuitton dine night, so we gon' do everything the kind like. Heard they do anything for a Klondike, well I'll do anything for a Blondike. And she'll do anything for the limelight, and we'll do anything when the time's right. Baby, you're making it
better, faster, stronger.
Oh. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya.
Like I don't know if you got a man or not, if you made plans or not, if God put me in your plans or not. I'm tripping, this drink got me saying a lot, but I know that God put you in front of me. So how the hell could you front on me? It's a thousand yous, it's only one of me. I'm tripping, I'm caught up in the moment, right? Cause it's Louis Vuitton dine night, so we gon' do everything the kind like. Heard they do anything for a Klondike, well I'll do anything for a Blondike. And she'll do anything for the limelight, and we'll do anything when the time's right. Baby, you're making it
better, faster, stronger.
That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya.
Kanye West qui nous chantait Stronger.
Au commencement des commencements.
Au commencement.
Au commencement.
Il y avait rien.
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et ben voilà, on est déjà dans un non-sens, nous dit Annick de Souzenel. Parce qu'en fait, il n'y a pas de commencement. Le verbe créer, bara en hébreu, signifie poser devant, exposer à notre vue, déplacer quelque chose qui est en nous pour qu'il s'offre à notre perception. Les cieux et la terre sont à l'intérieur de nous et les créer revient à les extérioriser. L'acte de la création du monde, c'est l'acte de naissance de la conscience de l'homme. Le problème, c'est que plus l'humanité avance et plus elle est coupée de son intériorité. Elle ne considère plus que ce qui est à l'extérieur d'elle, dans le seul but de dominer son environnement. Les cieux et la terre sont à l'intérieur de nous, mais que signifie cette image? Le mot hébreu pour les cieux, shamaim, est composé du mot maim, qui signifie les eaux. Et voilà qu'on retrouve l'océan primordial des Égyptiens. Vous vous souvenez? Le Noun, à l'origine du monde. Ces eaux à l'intérieur de nous sont une matrice et représentent notre inconscient. Dans le mot Shamaïm, il y a donc Maïm, les eaux, et Shem, le nom de Dieu. La présence divine est donc à l'intérieur de nous et nous ne la connaissons pas encore. Et pourtant, elle est un potentiel illimité. Voilà pour les cieux.
Il faut que notre partie féminine intérieure fasse l'amour à notre partie masculine intérieure.
250 mètres à grimper.
Pour cela, il faut trouver la terre et le ciel en nous.
En fait, là, on va grimper, on appelle ça un terrain d'aventure. On met nous-mêmes nos protections dans les fissures pour s'assurer, pour passer la corde.
Ben, c'est parti.
On entame la montée pour relier la terre et le ciel.
Bien entendu, en même temps, lorsqu'on parle du ciel, il faut bien comprendre qu'il s'agit là d'un langage métaphorique et que le ciel est un ciel intérieur, un firmament intérieur.
La chose est là, à portée de cœur, à portée d'intestin.
Notre vie est devant nous, ouverte, déployée vers la droite et la gauche, beaucoup plus loin qu'à l'ordinaire.
Et l'objectif de la journée, c'est en fait qu'ils arrivent à grimper en sécurité dans ce type d'itinéraire.
Et nous tentons de sortir à la lumière. Alors on continue notre escalade et on monte en haut de la montagne.
Quand je suis arrivée à Chamonix, j'ai découvert la haute montagne. Grimpe, les crampons, le vide, qui me faisait super peur.
Il faut faire un travail sur nous-mêmes. Assumer notre terre et notre ciel et nos complexités intérieures.
Une conjonction des opposés, puisque la terre et le ciel, symboliquement, ont toujours été considérés comme distincts l'un de l'autre, extrêmement différenciés, ce qu'il y a en haut, ce qu'il y a en bas, ce qui est du domaine des dieux et des esprits, ce qui est du domaine des hommes.
On suit notre guide de montagne sur le chemin de la sagesse pour apprendre à unir notre bas et notre haut.
Petit à petit, avec le temps, j'ai apprivoisé le vide.
On est arrivé à la sagesse, là ?
Je sais pas, je vois rien. Il y a de la brume, alors on ne voit plus ni le ciel ni la terre.
Ah mince, on redescend alors ?
Alors ça, c'était pour les cieux. Maintenant, la terre. En hébreu, on dit « eretz », mot qui désigne aussi ce qui est sec, observable. Nous voilà dans la dialectique du sec et de l'humide, du visible et de l'invisible, du conscient et de l'inconscient, du masculin et du féminin.
Quant à Adam, son nom vient du mot Adama, qui en hébreu, en fait, signifie terre.
Adam représente l'humanité entière. L'homme, comme un animal supérieur, dans ses deux pôles, mâle et femelle, dominant le monde et toute la création. Les premiers versets de la Genèse sont pourtant clairs. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Il s'agit bien ici de l'androgynie primordiale qui rejoint la science, le caractère sexué apparaissant à un stade supérieur de l'évolution. Mais voilà qu'Adam s'ennuie tout seul. Alors Dieu, pendant son sommeil, le coupe par le côté et extrait Ève. Oui, Dieu le coupe par le côté. La côte d'Adam, c'est une traduction foireuse d'un grec de la Septante. Le mot hébreu « tsala » prend le sens dans la Bible de « côté » ou « flanc ». Adam est donc coupé par le côté. Et ça signifie qu'Ève est sa moitié sans laquelle il ne peut se réaliser. Ève représente l'intériorité de l'homme avec laquelle il doit se connecter pour accéder à un champ de conscience nouveau. C'est une affaire d'initiation, une affaire de parcours avec des épreuves pour sortir enfin à la lumière comme dans le livre de la sortie au jour des Égyptiens qu'un égyptologue allemand a mal traduit encore une fois sous le nom de livre des morts. La Bible, le Coran, le Tao, les Upanishads sont des guides de spiritualité sur le chemin de la connaissance pourvu qu'on les lise avec l'énergie féminine nécessaire à l'homme pour s'accomplir.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean?
sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. You shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
La sublime Nina Simone qui nous chantait Feeling Good.
André Manoukian, Les routes de la musique, sur France Inter.
Sur les routes de la musique, sur le chemin de la sagesse, l'homme grandit comme un enfant. Au début de son parcours, il y a quelques centaines de milliers d'années, il invente des interdits pour régler sa vie sociale. C'est la naissance de la loi. L'interdit de l'inceste, nous dit Freud, est une des premières lois établies par l'homme pour sortir du monde animal. C'est un pacte de non-agression entre frères pour éviter qu'ils ne se battent pour posséder les filles du clan, leur mère et leur sœur. Il va falloir aller chercher les femmes ailleurs, dans d'autres clans. C'est la loi de l'exogamie. Et par là même, on va augmenter les chances de survie de l'espèce en enrichissant l'ADN et en évitant les maladies dégénérescentes liées à la consanguinité. De même, l'autorité du chef va être renforcée s'il est adoubé par une puissance spirituelle. Les premières lois sont supposées être d'essence divine. Et le chef de clan va être garant de l'autorité qui vient des dieux.
Eh ben, ça a quelque chose de démoralisant. Comprenez ? On n'arrivera jamais au bout. Ça vous le vertige ?
C'est à la Renaissance que le vague à l'âme s'est emparé de l'humanité, qu'un vertige existentiel nous a saisis quand on s'est rendu compte, grâce ou à cause de Galilée, que la Terre n'était qu'une minuscule planète prise dans un système solaire qui dérivait lui-même aux confins de la galaxie. C'est là que Blaise Pascal soupira « Le silence éternel de ces espaces infinis, mes frères. »
La peur du vide s'abat sur nos petits corps.
Le monde des petites bêtes est fascinant. Mais pour s'en apercevoir, il faut l'observer de près.
Nous sommes des petites bêtes et nous tentons de voir ce qui nous entoure. Mais ça fout le vertige.
Ce qui est incroyable, c'est que les hommes aient pu jauger cette immensité.
Oui. Tout cela a commencé le jour où un homme a pensé pour la première fois « La Terre n'est pas au centre de l'univers, elle n'en est qu'une poussière. »
Et si la Terre n'est qu'une poussière ? Alors nous, qu'est-ce qu'on est ?
Que l'homme se regarde comme égaré dans ce canton détourné de la nature et que de ce petit cachot où il se trouve logé, j'entends l'univers, il apprenne à estimer la terre, les royaumes, les villes et soi-même à son juste prix. Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini ?
L'homme dans l'infini, ce n'est même pas un caillou dans une chaussure. Ce n'est même pas une bactérie unicellulaire dans une flaque de boue. Non, c'est rien. C'est rien du tout.
Rappelle-toi le livre de Job, chapitre 26.
Il étendit le septentrion au-dessus de l'espace vide et posa la terre sur le néant.
Sur le néant. En réalité, ce néant est peuplé d'une incommensurable quantité de corps gigantesques, d'étoiles qui sont autant de soleils et dont l'espace nous offre un renouvellement indéfini.
Mais au-delà.
Oui, au-delà.
Il y a des milliards de soleils dans la Voie lactée, la plupart plus gros que le nôtre. Les dimensions de la Voie lactée sont inimaginables. Au-delà de la Voie lactée, il y a le vide. Au-delà du vide, encore le vide. Et puis, encore le vide.
Et ce silence...
Maman !
Le silence éternel de ces espaces infinis, mes frères.
Ainsi, aussi loin qu'atteignent les sondages des astronomes, l'univers se déroule inépuisable, effroyablement monotone dans son obstination à décourager le calcul, à dérouter le bon sens, à glacer toute velléité d'humour, oui. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Cet univers manque d'humour. Il est trop grand.
Le monde est grand et la vie est courte.
C'est ça la morale de l'histoire ?
Oui, depuis la Renaissance, les vieilles valeurs s'effondrent, mais les nouvelles ne sont pas encore là pour les remplacer. Les cartes qui nous guidaient sont devenues obsolètes, mais le GPS cosmique balbutie et nous voilà seuls face à l'obscurité, au néant, au silence éternel des espaces infinis. C'est ce sentiment d'exil dont nous parle Annick de Souzenel, le même que celui du surfeur d'argent condamné à dériver aux confins de la galaxie. Pour vivre une vie de plénitude en conscience, l'être humain doit accomplir une mutation. C'est le vrai message de la Bible, nous dit Annick. Quant à la lecture littérale, elle est proprement infantile.
Seemed the better way when first I heard him speak. Now it's much too late to turn the other cheek. Sounded like the truth. Seemed the better way. Sounded like the truth. But it's not the truth today. I wonder what it was. I wonder what it meant. First he touched on love. Then he touched on death. Sounded like the truth. Seemed better way. Sounded like the truth, but it's not the truth today. I'd better hold my tongue. I better take my place. Lift this glass of blood. Try to say the grace.
Silence, est-ce que c'est de la musique ?
Ah, quelle belle question, Elsa. En fait, sans silence, il n'y aurait pas de musique. Démocrite disait que finalement, la seule chose dont on peut être sûr, c'est que l'univers est fait d'atomes et de vide. Sans le vide, il n'y a pas d'atomes. Et sans le silence, il n'y a pas de musique. Alors, c'est quoi une musique sans silence ? Eh ben, c'est un flux continu. Alors, effectivement, ça peut ressembler à une fugue de Bach, d'une certaine manière. Cette manière de ne jamais s'arrêter, d'être dans un flux continu de notes, ça produit quoi au-delà de cette idée de fugue, de cette idée de flux, de cette idée de rivière qui coule comme ça sans fin ? Ça veut juste dire que, en fait, je ne retiens rien du tout de ce qui est joué. Maintenant, répétez ce que je viens de dire. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Vous voyez, impossible. Alors que si je pars sur un flux et que je l'interromps par du silence, tout d'un coup, j'ai quoi ? Là, tout d'un coup, j'ai une histoire qui est racontée simplement en montant la gamme, tout bêtement. Là, je les graine sans silence et puis tout d'un coup, je vais marquer des pauses. Oh, ça dit quoi, ça? Ça dit que j'ai envie de reprendre. Tout d'un coup, le silence dans un phrasé va simplement séparer, il va faire une cellule avec ce que je viens de jouer, avec ces quelques notes. Et ces quelques notes, je vais avoir tendance à les imiter. C'est un sentiment très naturel, ça, finalement, d'imiter, de reproduire quelque chose qu'on vient d'entendre. Quand un oiseau, tout d'un coup, émet un chant qui est presque, j'allais dire, reproductible, on a envie de le chanter tout de suite derrière. Et on se lance dans un dialogue, quelque part avec soi-même. Je vais reprendre encore une fois la chose la plus simple qui soit. Voilà, je vais faire mon arrêt au sol. Je monte ma gamme, do, ré, mi, fa, sol. Alors j'ai deux solutions. Qu'est-ce que je fais après ce silence? Je reproduis la même chose, c'est-à-dire cinq notes qui montent, mais à partir de là où je m'étais arrêté. Do, ré, mi, fa, sol. Je vais faire sol, la, si, do. Et puis j'ai recommencé. Ré, mi, fa, sol, la. Vous voyez, j'ai terminé en faisant sol, la, si. Grâce au silence, je répète ce que je viens de faire. Puis je vais recommencer ma gamme, mais en l'arrêtant au bout de la cinquième note. Ré, mi, fa, sol. Le silence va m'amener finalement à devenir un compositeur, puisque je vais jouer avec des cellules qui vont être comme des morceaux de récit, comme des morceaux de sens, qui, en les agençant les uns derrière les autres, vont construire un récit. Ça, c'est le silence dans une mélodie. Maintenant, le silence dans la rythmique, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'une rythmique? C'est une répétition continuelle. Là, ça fait un petit peu Stravinsky ici. Hein, on entend des coups répétés. Et puis tout d'un coup, je m'arrête. J'ai reproduit la même chose. Avec mon silence dans une structure répétitive, je vais créer une cellule qui va devenir un rythme à soi. Le plus simple possible, ça va être quatre croches. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 2, 3. 2, 3, 4, 2, 3. Va donner de la valeur, j'allais dire, à ça, c'est cet arrêt, c'est ce silence qui non seulement ponctue, mais qui crée une forme de suspense. Tout d'un coup, je suis en train de parler et j'arrête mon discours. Alors les gens sont suspendus à ce que je vais dire. Et si je mets mes silences bien placés dans une phrase, tout d'un coup, cette phrase prend un autre sens et prend un sens qui peut être soit dramatique, soit comique. Je vais jouer avec le silence d'une manière mélodique et d'une manière rythmique. Et pour finir, on va dire avec le silence que certains musiciens, vous les entendez, quand ils font un solo, ils sont en train de chanter leur solo. Alors parfois c'est insupportable. Keith Jarrett, qui est un pianiste mais fabuleux, le problème c'est quand il joue, il est tout le temps, on a l'impression que c'est un cochon qu'on égorge. Pourquoi certains musiciens ont besoin de chanter leur solo avec des voix? C'est pas du tout des chanteurs, c'est des excellents instrumentistes. Mais bien, c'est juste pour que leur solo respire au rythme naturel de la voix. C'est-à-dire, si je fais un solo qui ne s'arrête pas, c'est juste, au bout d'un moment, un tout petit peu insupportable. Alors que si je le chante, à un moment donné, je suis obligé de prendre ma respiration. Et du coup, mon solo, il va prendre son sens, il va respirer aussi au rythme de la mienne. Bon, je chante, voilà, pas du tout bien, mais c'est simplement ça qui va donner du corps et de la vie à mon solo. Et pour finir, vous la connaissez la phrase, mais elle est trop belle, le silence après du Mozart, c'est encore du Mozart.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, turn my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silence drops fell and echoed in the wells of silence. People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was for me, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sounds of silence.
Nouella qui nous faisait une sublime reprise de The Sound of Silence de Simon et Garfunkel.
Les routes de la musique, André Manoukian sur France Inter.
Prenons un autre mot pour tâcher de mieux appréhender les rapports magiques qui existent à l'intérieur de la langue hébraïque. Langue qui, elle-même, est dérivée en partie des hiéroglyphes. Le mot hiéroglyphe signifiant lui-même langue sacrée. En grec, hieros signifie sacré, glyphos, écriture. Prenons un mot qui a pris une connotation négative, alors qu'il est l'essence même de la vie, la chair. La chair, dans la rhétorique biblique, est fatalement liée au péché. Et quel péché ? Le péché originel, imputé à Ève, bien sûr, qui, séduite par le serpent, séduit à son tour Adam. Oh, comme la chair est faible ! Adam et Ève vont payer le prix fort. Chassés du paradis, ils vont connaître leur corps et la honte, puisqu'aussitôt ils vont le cacher, leur corps, sous des feuilles de figuier. Et ils vont connaître la douleur et la mort. Adam et Ève chassés du paradis, en fait, c'est l'histoire de l'incarnation. Le paradis, c'était le monde des esprits. La chute signifie donc la chute dans le monde matériel. Sans quoi, on sera encore que de purs esprits. Les esprits sont désormais incarnés dans un corps qui va les faire souffrir.
Les anges des ailes du désir de Wim Wenders approuvent les propos d'André.
C'est extraordinaire de n'être qu'un esprit et de témoigner pour l'éternité de tout ce qui a trait à la spiritualité de chaque mortel. Mais parfois, moi, je me sens fatigué de n'être qu'un esprit. J'aimerais que ce survol éternel se termine enfin. J'aimerais sentir en moi un poids. J'aimerais à chaque pas, à chaque coup de vent, pouvoir dire « maintenant, et maintenant, et maintenant », au lieu de dire « depuis toujours ou à jamais ».
L'ange a du vague à l'âme. Il voudrait passer du statut de spectateur au statut d'acteur.
Pourquoi suis-je moi? Et pourquoi pas toi? Pourquoi suis-je ici? Et pourquoi pas là?
Les anges immortels ont envie de goûter les plaisirs du corps, des couleurs et du vent. Ils sont même d'accord pour choper la crève en hiver.
Eh bien, je serais déjà satisfait. Après une longue et pénible journée de travail, de nourrir le chat, avoir de la fièvre. Que ce ne soit plus seulement l'esprit qui nous exalte, que ce soit un repas aussi. Le dessin d'une nuque.
On échange de place ? Propose André.
Vous êtes sûr ?
Demande l'ange avant de lui exposer son activité.
Nous devons éternellement rester graves pour être des sauvages. Ne rien faire d'autre que regarder, certifier, conserver, recueillir, attester. Rester esprit, repousser toute promiscuité, se contenter des mots.
André hésite avant de conclure le pacte. Il deviendra esprit pendant que l'ange prendra corps.
Et tu veux vraiment ?
Oui.
Les chrétiens, sous l'impulsion de saint Paul, vont en rajouter une couche sur la détestation de la chair, putride et corrompue, contre la grandeur de l'esprit. Platon avait préparé à cette détestation, en glorifiant le monde de l'idée contre l'illusion du monde matériel. Était-ce la maladie supposée de saint Paul qui le poussa si loin dans son rejet des femmes? Que les femmes se taisent désormais dans les assemblées, que les femmes se taisent à l'église, diront les chrétiens. La détestation de la chair va souvent de pair avec la détestation de la femme. Et pourtant, le mot « chair » en hébreu est loin de porter ses connotations putrides et diaboliques. « Bassar », la chair, en hébreu, vient de deux mots intriqués l'un dans l'autre. La lettre « S »,« Shin », est à l'intérieur de « Bar ».« Bar » signifie « le fils ».« S » signifie « la puissance de la vie ». Le mot « chair » signifie donc « la puissance de la vie incarnée dans le Fils de l'homme ». La puissance de la vie, c'est la sève de l'arbre de la connaissance, nous dit Annick de Souzenel, l'arbre de l'accompli et de l'inaccompli. Dieu ne crée pas le bien et le mal, mais il crée l'accompli et l'inaccompli. Rien de mieux pour combattre les intégristes de tout poil que de prendre le texte à sa source et de lui redonner son sens, expurgé des fantasmes libidinaux des méchants.
On se met un peu de musique.
Le travail d'Annick de Souzenel, son interprétation symbolique des diplômes d'Égypte ou de la création d'Ève peut sembler après tout subjectif, un symbole pouvant avoir plusieurs significations. Eh bien, c'est justement là tout son intérêt au symbole, c'est qu'il laisse un espace d'interprétation à chacun d'entre nous, afin que nous nous connections librement avec une partie du message dont il est porteur, à un niveau d'intensité que nous pouvons choisir. La structure de la langue hébraïque, privée de voyelles, permet des analogies entre des mots différents. Derrière l'apparence et l'évidence se cache un sens que l'érudit met en lumière. De plus, chaque lettre portant une valeur numéraire, le rapport entre deux mots devient mathématique et établit des proportions qui deviennent parlantes. Par exemple, le chiffre 1 est le tout, la matrice originelle, le chiffre de Dieu, de même pour le chiffre 10.
Divinitel, bonjour.
Apprenons à lire différemment le futur et le passé à l'aide des nombres.
Des nombres qui nous accompagnent et qui font partie intégrante de notre environnement.
Plongeons donc dans les signes. En plongeant, nous atterrissons à l'origine de la numérologie avec la gématria.
La gématria, c'est-à-dire l'étude de la signification numérique des mots en vue de procéder à des explications historiques ou métaphysiques de la Bible.
Et la Bible se découvre sous un nouveau jour.
Quoi ? Elle devient un best-seller de Dan Brown ?
Permutation des lettres, analyse de leurs valeurs numériques, calligraphie, récitation. Tous les procédés sont bons dès lors qu'ils ouvrent les textes sacrés à des sens nouveaux.
Les textes deviennent des équations magiques à déchiffrer.
Le vav, qui ressemble à un phallus, qui est une barre, n'a pas la même symbolique que le hé, qui est ouvert, qui n'a pas non plus la même valeur numérique, puisque le yod c'est 10, le vav c'est 6 et le hé c'est 5.
Mais d'où ça vient cette traduction numérique ?
Le Seigneur a créé cet univers à partir de 32 voix, les 22 lettres de l'alphabet hébraïque et les 10 premiers nombres, c'est-à-dire les 10 unités, qui sont en hébreu les 10 premières lettres, puisque chaque lettre hébraïque a une valeur numérique. Ce qui a conduit les sages du Talmud à dire qu'il y avait 32 voies de la sagesse, c'est-à-dire que le monde était intelligible de 32 manières.
Les 32 voies de la sagesse sont derrière nos épaules. Entendons-les et regardons différemment le monde.
Ce sont les chiffres qui le disent.
Exemple. Nous sommes en 2017. 2 plus 0 plus 1 plus 7, ça donne 10. 1 plus 0, c'est-à-dire 1.
Et alors, c'est une bonne chose ou pas ?
2017 est une année dont l'énergie est celle du conquérant.
2017, c'est l'année des conquérants ? Ah ouais, Trump, Macron, Hamon ?
La Bible fut aussi écrite en araméen, la langue du peuple, la langue de Jésus. Et là encore, certains mots revêtent un sens différent. En fait, si on veut avoir une vision juste du texte de la Bible, il faudrait l'étudier en hébreu, en araméen et en grec. Là, vous vous dites, c'est chose impossible. Que nenni ! Au Moyen-Âge et dans l'Antiquité, c'était très répandu. L'étude de l'hébreu, du grec, du latin, de l'araméen, de l'arabe, était pratique courante dans tous les lieux d'apprentissage. Elle faisait partie des humanités de l'époque. La Bible, en ces temps, était l'encyclopédie universelle, le livre de référence, le code civil, le repère moral, le code de la route, le GPS cosmotellurique, la boussole, le livre de chant, le dalloz, le livre des pharmaciens, le guide du routard, le livre d'histoire, le livre des prédictions, un talisman, un livre magique en somme. L'histoire de son élaboration porte en soi des clés pour mieux la comprendre. L'Ancien Testament est en fait une compilation canonique de plusieurs récits qui circulaient dans le Moyen-Orient. On s'accorde à poser son écriture au 7e siècle avant notre ère, en Judée, sous le règne du roi Josias, sous la tutelle de Babylone. N'en déplaise aux rigoristes de tout poil qui pensent que c'est sous la dictée de Dieu que les rédacteurs ont agi, les conditions historiques de son élaboration ne sont pas sans effet sur le contenu. Et voilà une explication de la diabolisation de l'Égypte dans le livre de l'Exode. Les rédacteurs étaient sous la tutelle du plus grand ennemi de l'Égypte, Babylone. Ont-ils écrit sous influence ? Nous le saurons au cours du prochain épisode.
Au commencement,
il n'y avait que la musique.